Alors pourquoi je vais dire pourquoi je suis pourquoi j'habite, pourquoi je vis et je travaille. Je travaille parce qu'en fait j'ai eu la chance de trouver un travail à... parce qu'aujourd'hui trouver un travail, il n'y en a pas des dizaines, n'est-ce pas, qui courent à chaque coin de rue. Donc pendant quelques années j'ai habité et une ville qui était aussi très agréable, mais j'avais fait des études secondaires, donc de droit, à la très célèbre université de droit de Paris, qui est certainement une des plus anciennes de France. Et après ces études, j'ai eu la chance de trouver donc un travail, puis de revenir à Paris, où je suis actuellement depuis 7 ans. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est une petite ville de province, qui est assez peu peuplée, mais il a une particularité, c'est qu'il y a un nombre d'étudiants qui est particulièrement et très important par rapport au nombre d'habitants. Je crois de mémoire qu'il y a plus de 25 000 étudiants, pardon, pour 100 000 habitants. Donc c'est une des proportions en France, je crois, avec Montpellier ou une autre grande ville comme ça.
Grenoble
Ou
peut-être.
peut-être Grenoble, oui. Une des proportions en France qui est des plus notables. Poitiers est connu évidemment à l'heure actuelle essentiellement pour le Futuroscope, puisqu'on voit une publicité qui est non seulement nationale mais aussi internationale. J'ai reçu il y a quelque temps des nouvelles d'un ami du Brésil, brésilien, qui avait vu dans une revue donc tout un article sur Futuroscope et qui m'a envoyé ça. Je n'ai pas tout à fait compris parce que l'article est en portugais, donc je n'ai pas encore le portugais,
Ah
je
oui.
comprends. Mais enfin, c'est pour dire que le Futuroscope a une renommée de portée tout à fait internationale et tout à fait mondiale. Donc Poitiers est connu pour ça, mais à l'origine, Poitiers est surtout connu pour son art roman, et notamment pour une église absolument magnifique qui s'appelle Notre-Dame-la-Grande, qui est dans le centre de Poitiers, et qui a fait l'objet d'une restauration extrêmement poussée il y a quelques années, puisqu'en fait toute la façade, la façade romane commençait à se déliter, notamment sous l'effet de la pollution atmosphérique, mais aussi sous l'effet du sel. Parce qu'il faut savoir qu'autrefois, il y avait des marchands de sel qui étaient sur cette place, donc sur cette place Notre-Dame, et les petites maisons étaient accolées, les échoppes étaient accolées donc à l'église. Et le sel, par capillarité, remontait donc dans les fondations et donc rongeait petit à petit donc la pierre, en faisant disparaître les magnifiques sculptures de la
Mais
façade.
oui, je ne savais pas ça.
Donc il y a eu un travail considérable qui a été fait il y a 3 ou 4 ans maintenant, pendant plusieurs années, pour extraire le sel, pierre par pierre, des
Carrément.
pierres.
C'est la place, c'est l'église qui est sur la place du marché, en fait.
C'est l'église qui est sur la place du marché, tout à fait, oui, c'est ça.
Ah, elle est jolie.
C'est une magnifique église qui a aussi une très très grande renommée. Je pense que dans les guides les plus connus, comme le guide Michelin, elle
Oui.
est gratifiée de 3, 4 ou peut-être plus d'étoiles encore.
Ah oui.
Et elle est tout à fait. C'est une des plus belles, je pense, de la région. Quoique la région du Poitou comprend aussi, enfin connaît aussi de très nombreuses églises romanes et bâtiments d'art roman qui sont moins connus. Mais dans les kilomètres alentours, même dans les départements limitrophes, comme les Deux-Sèvres.
Parce qu'il y a pas mal d'églises à Poitiers.
Il y a beaucoup d'églises à Poitiers,
Oui.
oui. La plus.
Et j'ai vu il y a la petite, c'est rond et c'est petit. C'est Saint-Pierre,
Alors,
Saint-Jacques.
Saint-Pierre, c'est la cathédrale, donc non,
À
elle est
côté.
immense. Alors, Saint-Radegonde, tu as vu peut-être.
C'est petit, c'est rond là. Je sais pas.
À l'intérieur, tu veux dire?
Non, non, à l'extérieur, c'est fait comme ça.
Tu as vu, tu penses au baptistère peut-être?
Oui, c'est
Le
ça, oui.
baptistère, d'accord.
Saint-Jacques, oui,
Oui, le
pardon.
baptistère Saint-Jean, oui, d'accord. Qui est un baptistère qui est très ancien aussi. Il faudrait que j'ai un guide. J'aurais dû me munir d'un guide pour donner quelques éléments, n'est-ce pas, sur la cassette. Il est je dirais, 3 ou 4 siècles après Jésus-Christ. Donc il est très très ancien. Et alors, sa particularité, tu as dû noter, c'est que il est un petit peu en contrebas. Il est un petit peu enfoncé dans la terre. Parce qu'en fait,
Ah oui,
on,
tu montres.
voilà, parce qu'en fait, on dit que Poitiers a brûlé plusieurs fois. Donc à chaque fois, si tu veux, la ville était reconstruite et le baptistère est resté tel qu'il était. Et petit à petit, comme la ville était reconstruite, après avoir brûlé ou avoir été victime d'accidents, cela fait maintenant que le baptistère est un petit peu dans le fond, effectivement, que tu as l'impression de descendre. Mais à l'origine, il était donc au niveau du sol.
Ah oui, parce que c'est comme ça que les peintures ont été préservées. Parce que maintenant, le soleil
Ah oui, ne pénètre pas.
ne pénètre
Oui,
pas.
c'est ça.
Ah oui, ah bon. Faut y aller. Ouais, ça c'est. Je vais te montrer.
Voilà, il y a une autre église aussi qui est très célèbre, non pas parce qu'elle est une architecture extraordinaire, mais parce qu'il y a une grande sainte de Poitiers qui est enterrée, qui s'appelle Sainte Radegonde. Donc il a vécu, là aussi, il faudrait que je regarde mes livres d'histoire, c'est
Mmh.
difficile. Toujours est-il que elle était mariée au roi Clotaire, et le roi était un roi très violent, donc elle s'est échappée, et elle a créé donc un monastère, qui est le monastère Sainte-Croix, et qui a été pendant très longtemps à côté du baptistère Saint-Jean. Et il y a quelques années de cela, peut-être 15 ans maintenant, les locaux ont été vendus pour faire le musée Sainte-Croix. Vous connaissez peut-être le musée Sainte-Croix. Il y a un musée avec des peintures, quelques peintures assez anciennes et avec beaucoup de valeur. Et donc ces bâtiments ont été vendus et elles se sont installées à l'extérieur de Poitiers. Mais c'est cette grande sainte à l'origine, Sainte Radegonde, qui avait créé ce monastère. Donc c'est un monastère très ancien. Il faudrait que j'aie un dictionnaire, ça serait plus simple pour voir à quelle époque il remonte, mais j'ai peur de dire des bêtises au micro, donc je m'abstiendrai. Toujours est-il que cette sainte est enterrée, là aussi ça vaut le coup, si tu as l'occasion de voir, de descendre, il y a une crypte, je ne sais pas si tu as vu, une crypte très profonde, avec un petit déambulatoire, et là il y a le tombeau de la sainte. Et alors, ce tombeau, je crois pendant la Révolution, pendant les guerres de religion, les personnes qui étaient contre la foi catholique ont essayé de le détruire. Il était en voie un endroit, il est brisé à un endroit, mais en fait il n'a jamais été complètement brisé, complètement décapité. Donc il est encore en place tel qu'il était à l'époque de la Sainte. Il y a quelques années, il y a aussi l'histoire dans la crypte. Le tombeau a été ouvert par les autorités religieuses, donc ils ont retrouvé un certain nombre. Alors je sais plus, je crois qu'il y a des ossements de la Sainte, enfin qu'on dit être attribué à la Sainte. Et puis un certain nombre d'objets aussi qui ont été répertoriés. Et lorsque tu vas dans la crypte de l'église Saint-Radegonde, tu peux voir ce qui a été trouvé dans le tombeau quand il a été ouvert par les autorités religieuses il y a quelques années. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça.
C'est très récent.
Oui, donc l'évêque était présent et puis
Oui.
quelques autorités aussi civiles, laïques, étaient présentes aussi pour voir cette chose extraordinaire de l'ouverture du tombeau.
Et après, on a dit quoi?
Et après, on a fait un petit papier que tu peux voir donc dans la crypte où on t'explique à quelle époque on a ouvert, qu'est-ce qu'on a trouvé, et après on a remis et on a refermé le tombeau.
Donc l'histoire de Poitiers au moment du Moyen Âge est très très riche.
C'est extrêmement
C'est
riche,
vraiment très
tout à
riche.
fait.
Donc il y a eu une période de un âge d'or un petit peu
Tout à
de
fait.
enfin, pendant le Moyen Âge. Et c'était peut-être une des régions qui dominait une partie de la France en fait.
Pas une
Non?
partie de la France, mais c'était une région riche, opulente. D'ailleurs, quand tu te promènes dans les rues de Poitiers, tu peux voir quand tu lèves la tête des très beaux hôtels particuliers. Encore, il y a eu des grandes familles très riches, des grandes familles de nobles. Quand tu pars de la place ici où tu habites, tu peux prendre à droite, tu as l'hôtel Fumé, qui est magnifique, qui appartenait à une grande famille de Poitiers aussi. Quand tu prends à gauche par la petite rue qui monte, rue qui doit s'appeler rue des Flageoles, tu arrives, il y a un petit panneau sur le mur aussi, l'hôtel Roi-Rang, je crois, qui est un hôtel particulier splendide aussi. Donc Poitiers a été véritablement une ville opulente et très très riche avec des grandes familles qui a connu ses heures de gloire.
Et ce bâtiment, ça date de quelle
Cette maison
époque?
ici, cette maison n'est pas très ancienne. La maison où tu vis n'est pas très ancienne. C'est une maison qui remonte, je pense, date de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est pas très ancien. Mais il y a des parties qui sont beaucoup plus anciennes.
De cette maison?
Oui, il y a
Ah
par exemple.
oui, parce que c'est un peu. Enfin, tu vois que ça n'a pas été construit tout en
Non,
même temps.
voilà, exactement, exactement. Par exemple, il y a des caves très importantes sous la maison, des caves voûtées absolument splendides, qui probablement ont plusieurs siècles. Un jour, je peux te montrer, prochainement, si tu veux. Il y a des caves absolument splendides, et pour côté anecdotique des choses, ces caves sont tellement grandes que plusieurs fois, il a été proposé à ma mère, qui est la propriétaire de la maison, de louer les caves. Et il y avait une proposition qui était très sérieuse d'un peintre restaurateur de tableaux qui voulait faire une galerie d'art. Donc aménagé. Et il y a aussi une proposition d'une personne qui voulait faire une discothèque, un nightclub.
Oh non, ça me va pas,
Non,
ça.
ma mère a dit non à cause du prix parce que
C'est sûr
c'était vraiment terrible. Autrement. Mais c'était aussi pratique pour les personnes qui habitaient ici. Elles avaient à descendre l'escalier, c'était tout de suite dans la
c'est
boîte de
vrai,
nuit.
ça.
Avec des tarifs préférentiels,
Ah
peut-être.
oui, sûrement.
Ah oui. Elle n'a pas voulu avoir le peintre ici.
Si, mais il y a eu quelques petites histoires un petit peu pénibles. Donc je préfère passer cette histoire sous silence. Voilà.
D'accord.
Et en fait, les caves sont restées parce que c'était très solide, et puis ça a servi de fondation un petit peu.
Tout à fait. Ça
pour le reste de la maison.
Exactement, exactement.
J'ai l'impression que c'est une pratique qui est couramment utilisée, de garder les anciennes fondations pour construire par-dessus.
Oui, tout à fait.
Je suis allé au Louvre il y a peut-être 2-3 semaines, et j'ai vu que sous le Louvre, il y avait l'ancien Louvre avec les fondations en parfait état, qui était resté intact.
Et ici, c'est tout à fait une spécialité de Poitiers, puisque comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu, semble-t-il, plusieurs constructions, plusieurs couches successives. Ouais. Donc effectivement, quand tu te balades ici, notamment sur le plateau, ce qui s'appelle ici le plateau, qui est un peu surélevé, tu vois, et qui est entouré par les rivières, notamment par le Clain. C'est un véritable fromage de gruyère ici. Et on m'a raconté que dans le bâtiment très moderne qui est à côté de Notre-Dame-la-Grande, à côté de l'université de droit aussi, qui s'appelle la médiathèque, on m'a raconté que quand ce bâtiment a été construit, il a fallu faire des fondations et que c'était un véritable gruyère en fait. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas quelle est la réalité, la vérité, quand ils ont coulé du béton pour faire les fondations, le béton est rentré comme dans des trous de gruyère en fait. Et c'est infiltré partout. Et il y a des gens qui habitent immédiatement à côté de ce bâtiment qui seraient, entre guillemets, en procès avec la mairie, avec la municipalité, parce que le béton a coulé dans leur cave. Le béton liquide s'introduisait partout.
Ah bon, alors on a comment on dit, maze. Quand tu as... Attends. Tu as plein de petits chemins. Il faut trouver le centre.
Labyrinthe, non?
Labyrinthe, oui, c'est ça. Un peu,
c'est comme un labyrinthe, c'est ça. Et il est certain que dans cette maison, par exemple, qui a des caves qui sont fermées, si tu défonces, si tu fais un trou dans un morceau de mur, tu vas te trouver dans la cave du voisin, c'est certain. Le voisin, la personne qui habite immédiatement à côté de notre maison, me disait que, petit, elle se rappelle qu'il y avait un trou dans ses caves qui permettait d'aller jusqu'à l'église Saint-Germain. Est-ce que tu vois où est l'église Saint-Germain? Derrière le conservatoire.
Oui, loin, alors.
Très loin.
Ah oui. Et ça pose peut-être aussi des problèmes de stabilité de l'ensemble des maisons. Il y a des fois, il doit y avoir des petits glissements, peut-être des fissures dans les murs, parce que les maisons doivent parfois peut-être bouger.
Je ne pense pas tellement, tu sais, parce que les caves étaient tellement bien construites. Quand tu vois la cave ici, là, c'est absolument magnifique, quoi. C'est presque une œuvre d'art, tellement c'est bien construit. Les pierres sont ordonnées, la maçonnerie est propre et nette. Et si tu veux, ça fait peut-être, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 siècles que c'est comme ça. Et ça n'a pas bougé, tu ne vas pas trouver de lézard dans cette maison. Tu vas trouver d'ici une petite lézarde à l'extérieur, mais sur une construction beaucoup plus récente de la guerre. Il y a une petite lézarde à l'extérieur de la maison en sortant sur la droite qui a été bouchée, mais ça n'a rien à voir avec la construction du Moyen-Âge. Donc ce qui était construit au Moyen-Âge était bien fait.
Et les fondations datent du Moyen-Âge?
Oui, certainement. Oui.
Et à votre avis, pourquoi au Moyen-Âge, les gens étaient habitués à construire autant de caves, des caves qui étaient liées comme ça, de proche en proche, pour aller même jusqu'à l'église, ce qui est assez incroyable?
Je ne saurais pas l'expliquer, peut-être y avait-il des...
Peut-être qu'ils avaient, c'était aussi peut-être une manière de fuir aussi, quand on les cherchait dans les maisons, je ne sais pas, parce que c'est une époque trouble.
Oui.
Peut-être qu'ils pouvaient éventuellement s'échapper par la cave, passer dans une cave à côté, sortir dans une maison plus loin, et puis...
Ou je pense aussi que ça avait peut-être un côté pratique, tu sais, à l'époque où il n'y avait pas de supermarché ou de choses comme ça, où il fallait emmagasiner la nourriture, par exemple pour l'hiver, où cette cave, je sais, elle a servi aussi, parce qu'on a encore des traces à mettre très logiquement du vin. Donc il y avait aussi un côté pratique, je pense, à la construction, quand tu avais un grenier pour mettre, par exemple, la récolte, enfin je pense surtout dans les campagnes, pas dans les villes. Tu avais une cave ici aussi pour emmagasiner, je pense, la nourriture et pour la conserver au frais. Quand il n'y avait pas de réfrigérateur, de congélateur, enfin c'est une des hypothèses.
D'accord.
Et cette cave a servi aussi pendant la guerre. Ma mère m'a raconté ça, cette histoire. Pendant les bombardements donc des Allemands, il y avait beaucoup de personnes qui venaient se réfugier de peur que les bombes tombent sur la maison et que la maison s'écroule. Mais les caves sont tellement solides, si tu veux, que même peut-être si la maison s'était écroulée, ce qui n'est pas arrivé, si le toit était tombé, bon, les personnes auraient été protégées sous la cave. Et ma mère m'a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une personne, semble-t-il, pendant la guerre, il y avait, je crois, jusqu'à 200 ou 300 personnes qui étaient réfugiées, qui étaient cachées dans cette cave quand il y avait les bombardements. Et une personne qui apportait leurs effets personnels ou leurs objets de valeur, qui avait une personne donc, qui avait une petite valise, qui est tombée, la petite valise s'est ouverte, et elle était pleine de pièces d'or. Que des pièces d'or. Et donc, les personnes qui étaient là ont aidé pour ramasser les pièces d'or et les remettre dans la valise. Et le monsieur a compté les pièces d'or après, et il ne manquait pas une seule pièce d'or. Il a tout retrouvé, les pièces d'or.